le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
On fait tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste.
C'est pas d'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
Bonsoir, alors ce soir nous allons écouter plusieurs interventions qui se sont faites lors d'une conférence sur la question des paysans sans terre dans le monde. C'est à l'occasion de l'anniversaire de l'AIT, Association Internationale des Travailleurs, que s'est tenu à Nancy au printemps 2014 un débat sur les luttes paysannes et la question des réappropriations de terres. Alors rapidement un mot sur l'AIT. C'est le nom officiel de ce qu'on appelle également la Première Internationale. À l'occasion d'un congrès international réuni à Londres en 1864, les courants anarchistes et marxistes se sont confrontés et associés pour faire naître dans le mouvement ouvrier naissant une représentation politique et surtout un projet social. Lors des récentes festivités qui ont donc marqué les 150 ans du mouvement ouvrier, les camarades paysans ont tenu à rappeler cette réalité objective qu'aujourd'hui encore dans le monde, un travailleur sur deux est paysan et qu'il existe une internationale bien vivante, il s'agit de la Via Campesina. La première intervention est donnée par Romain Ballandier, porte-parole de la Confédération Paysanne de Lorraine. Romain intervient sur le contexte général de l'état de la paysannerie dans le monde. Sylvia Pérez-Vitoria relate ensuite les luttes de réappropriation de terres en Andalousie et au Brésil. Puis viendra l'intervention de Benji qui donnera des éléments d'information sur les mouvements européens Reclaim the Fields. Il est suivi par Mika, paysan squatteur sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui raconte les épisodes d'occupation de terres sur la ZAD et les projets qui sont en cours. Enfin, Hélène Roux revient sur les luttes de réappropriation de terres au Chiapas et finit par un petit topo sur la lutte paysanne au Honduras. Un dernier mot pour dire que les morceaux de chants révolutionnaires que vous allez entendre ont été enregistrés à l'occasion de ce week-end anniversaire de la Première Internationale. On écoute tout de suite Romain Ballandier.
Oui, donc moi je suis Romain, je suis paysan avant tout dans l'Ouest vosgien. Je suis éleveur laitier, rien de bien original puisque j'ai repris la ferme de mes parents. Voilà. Et je me suis donc engagé au sein de la Confédération paysanne, à la fois parce que c'est un syndicat de défense de l'agriculture paysanne et de ses travailleurs au sens large. Quand on dit travailleurs, c'est aussi les travailleurs salariés. Et c'est surtout un syndicat qui a été très présent depuis sa création. C'est un des aspects qui est très fort à la Confédération paysanne, c'est ce lien à la société. De s'inscrire dans les mouvements de transformation sociale. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important à rappeler en introduction. La Confédération paysanne est membre aussi d'un mouvement beaucoup plus large, international, qui s'appelle la Via Campesina, qui est un mouvement des paysans paysannes, des jeunes sans terre, ou moins jeunes, des indigènes, enfin voilà, et de tous les travailleurs de la terre, des migrants aussi. Ce contre quoi on lutte aujourd'hui, malgré tout, et ça se traduit aussi en termes politiques, et notamment la politique agricole commune, mais pas que, on lutte vraiment contre ces politiques libérales, la dérégulation des marchés notamment, sur lesquels prospèrent en fait, les investisseurs et les financiers en tout genre, quoi, les spéculateurs en tout genre, qui s'approprient l'alimentation, la production agricole et de fait l'alimentation, des fins spéculatives et financières. On va dire que ce pouvoir-là économique, en fait, il a été, il il a été transféré directement aux multinationales, aux agents économiques, et ce sont donc des procédés les États. Ça produit tout ce qu'on sait autour de la production agricole, à savoir l'intensification, la concentration des productions, concentration sur les territoires, concentration sous forme de bassins de production à l'échelle européenne et mondiale, la modernisation et donc de fait après tout l'accaparement par les firmes et les investisseurs des ressources productives, qu'elles soient la terre, l'eau, les semences, etc. D'où après le pouvoir enfin qui leur est donné enfin gentiment à travers le brevetage du vivant, par exemple des semences ou des semences végétales comme animales. Et donc ça conduit à la disparition des paysans, des paysannes. Pour rappel, comme ça, en termes de chiffres, c'est toujours intéressant et ça fait toujours peur. En France, on était quand même 5 millions de paysans à la sortie de la guerre. On est aujourd'hui aux alentours de 600 000, peut-être un peu moins. Voilà, ça pose des questions. On dit qu'en Europe, on perd une ferme toutes les 3 minutes. Et avec tout ça, la disparition des paysans, c'est aussi la disparition des savoir-faire. C'est l'épuisement des ressources, la dégradation de l'environnement. Et pour les investisseurs, ça suffit pas, quoi, hein, ce constat-là. La terre, elle se délocalise pas comme d'autres secteurs peuvent jouer pour faire plus de profit. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui et ce pourquoi on travaille à la CONF sur cette thématique des travailleurs saisonniers migrants, c'est que le déplacement du capital, certes, mais aujourd'hui, on a organisé le déplacement des populations, notamment rurales et paysannes, je prends pour exemple les pays d'Europe de l'Est. Et donc, toutes ces populations-là, c'est celles qu'on retrouve aujourd'hui à Huelva, en Andalousie, ou encore dans le sud d'Italie, même toute l'Italie, ou encore en Allemagne, dans les abattoirs. Et donc, en fait, toutes ces populations viennent nourrir les bassins de production industrielle. Et les politiques, ils ont permis d'adapter les outils sociaux. Enfin, je pense en particulier à la directive détachement ici en Europe, ou au développement de la prestation de services internationales. Et en fait, ça, c'est pas autre chose que un grand retour en arrière sur plus d'un siècle et demi de progrès social. Voilà, ce programme du travail saisonnier migrant, il consiste à faire une expertise des conditions de travail dans l'agriculture et dans ses productions agricoles. Il consiste aussi à organiser un vaste réseau européen de lutte, à la fois au sein de la Via Campesina, entre syndicats et organisations agricoles, mais aussi associatives, avec les associations qui défendent les droits des travailleurs. Et nous, on met ça en parallèle avec notre plaidoyer, enfin notre travail syndical qui consiste à faire bouger les politiques agricoles, c'est-à-dire on ne dit pas autre chose que le droit au revenu des paysans, il n'est légitime que si on respecte le droit au revenu des travailleurs aussi, et qu'on respecte aussi l'aspiration des agricultures paysannes à rester encore en vie dans tous les territoires. Voilà, refus donc de voir les champs des paysans comme des terrains d'expérimentation de l'érosion des droits des travailleurs. La Via Campesina, c'est à peu près un peu plus de 160 organisations paysannes qui représentent presque 200 millions de paysans et paysannes. Donc dans l'idée, dans ce que porte la Via Campesina, je vais mettre en avant deux concept, entre guillemets, à savoir la souveraineté alimentaire et la convergence des luttes. Sur la souveraineté alimentaire, le constat est fait quand même que, sous l'égide des institutions européennes, internationales, peuvent être aussi l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, enfin, je ne vous refais pas le topo sur les plans d'ajustement structurel, mais il y a effectivement une une dépossession des États et des peuples à choisir eux-mêmes leur mode d'alimentation et donc par là même le mode de production qu'ils souhaitent. Et donc, je peux donner deux exemples sur lesquels on a aussi travaillé dans le cadre des saisonniers migrants. Le Maroc, à qui on a imposé il y a de nombreuses années un plan Maroc vert. Donc ça a été dessiné par le bureau d'études McKinsey, qui est donc un bureau d'études américain très lié à FMI, Banque mondiale, etc. Et à qui on a dit, mais pour développer votre agriculture, il faut travailler à l'exportation de vos produits, quoi. Et donc faire venir notamment les investisseurs sur le territoire à qui on aura accordé sur les terres royales qui sont conséquentes au Maroc des baux amphithéotiques et donc c'est une forme d'accaparement de terres très forte et le Maroc est devenu en quelque temps un producteur un pays produisait des céréales, qui avait une culture alimentaire autour de la céréale, du blé, couscous et autres semoules. Et aujourd'hui, en fait, il est devenu principalement un producteur d'agrumes et de fruits et légumes, de légumes type tomates, concombres, où il exporte de l'eau. L'Italie, c'est un peu la même chose. La politique agricole commune a décidé de découpler les aides de la production il y a un peu plus de dizaines d'années. Et finalement, donc, ce découplage a fait que les producteurs ont arrêté de produire, ont bien diminué les surfaces en production de blé dur, qui leur servait aussi à faire les pâtes. Et aujourd'hui, l'Italie est... qui exporte ses vins, également ses tomates, ses agrumes, elle importe du blé dur. D'où, pour nous, c'est à travers ça, on réintroduit un concept de souveraineté alimentaire qui est la réappropriation des peuples de leur destin alimentaire et de la production. L'idée un peu de toutes ces luttes-là, c'est aussi, c'est surtout de dire... De mettre un peu sous surveillance tous ceux qui détiennent le pouvoir économique, qu'ils soient les États, mais aussi les multinationales, leur dire qu'on est là et qu'on va se battre ensemble. Ça ne sera pas chacun dans son coin. Je pense notamment quand on est allé au Maroc, et là il se passe des grèves. Dans les usines agroalimentaires ou dans les fermes des investisseurs, des grèves assez dures dans un contexte de régime très autoritaire. Et nous, forcément, on a besoin de savoir ça, de savoir qu'il y a telle grève qui se passe chez Meïs Sadour dans le Sousse. Ça nous permet à la fois d'alerter ici nos gouvernements sur une réalité sur laquelle ils ferment les yeux forcément et aussi d'alerter les consommateurs et de faire des campagnes de sensibilisation. C'est un peu comme ça qu'on voit aussi la convergence des luttes. Et puis peut-être donner un autre exemple, mais je pense à ce qu'on a pu voir en Allemagne où les mouvements paysans, le syndicat paysan, aussi membre de la Via Campesina, s'est associé notamment à un collectif de chômeurs et de précaires pour défendre aussi les droits de chacun, les droits des paysans à avoir un revenu décent et les droits des chômeurs et des précaires. Chacun va ou accompagne les chômeurs vont sur les actions des paysans et les paysans vont sur les actions des chômeurs et des précaires. Donc la Via Campesina, cet esprit-là aussi, c'est l'ouverture à la société civile, forcément, pour le grand changement de société.
Et
Toujours sur Radio Canu, dans l'émission Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes. On écoute maintenant Sylvia Pérez Vitoria.
Bon, moi, je vais plutôt intervenir sur donc, deux grandes luttes qui, historiques, en fait. Hein, une en Andalousie, dans un pays du Nord, et l'autre du mouvement des sans-terres du Brésil, dans un pays du Sud, pour montrer quand même que c'est un phénomène qui est tout à fait global. Je voudrais juste faire un petit rappel avant de cadrer un peu ce que je vais dire. Rappeler que dans toutes les sociétés, pendant très longtemps, la terre avait essentiellement une valeur d'usage, voire était sacralisée, et que la propriété de la terre est quand même quelque chose de très récent. Et que avec la propriété de la terre et la propriété et la privatisation de la terre et la privatisation du travail est considérée par un penseur comme Polanyi comme étant marquant d'un tournant très important dans l'histoire. Il existe encore dans beaucoup de continents du monde, en Amérique latine, en Afrique en particulier, mais même dans certaines régions d'Europe, en particulier en Espagne, il existe encore des communaux, c'est-à-dire des terres qui sont prises en charge par des collectivités avec des modes de gestion propres. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Il n'y a pas que la question de la propriété privée. Ensuite, rappeler aussi que historiquement, les modes de l'appropriation de la terre sont variés. Il peut y avoir des occupations qui sont issues de luttes. Il va y avoir la colonisation, qui a quand même été un phénomène d'appropriation des terres très importante à l'échelle mondiale. Il y a le marché, et on va voir à quel point actuellement dans nos sociétés, c'est ça qui est en train de primer, c'est-à-dire comme forme d'accès à la propriété. Et puis, bien sûr, il y a la réforme agraire. Alors, en sachant que les réformes agraires... Il y a deux grands types, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais deux grands types de réformes agraires. Une réforme agraire qui est issue de luttes. Pratiquement toutes les révolutions dans l'histoire avaient un volet, si je puis dire, réforme agraire, que ce soit la révolution russe, que bien sûr la révolution mexicaine, mais il y a toujours eu cet aspect-là. Et puis vous avez des réformes agraires qui ont été faites pour des raisons de rationalité économique. Ça a été toutes les réformes agraires qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale au Japon ou dans des pays d'Amérique latine aussi où on a fait des réformes agraires parce qu'il y avait intérêt, les propriétés trop grandes étaient inefficaces, etc. Donc il y avait intérêt d'une part à assurer un minimum de sécurité alimentaire et d'autre part essayer de casser certains pouvoirs féodaux, pseudo-féodaux qui existaient. Voilà. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale aussi, quand il y a eu toute la période de décolonisation, les grandes organisations internationales avaient lancé des programmes de réforme agraire, notamment en Amérique latine, en Afrique, etc. Et puis, ça a été complètement évacué, c'est-à-dire à partir des années 70, on n'a plus entendu parler des réformes agraires. Et vous allez voir, enfin, elle est revenue par un détour qui est la Banque mondiale, qui a lancé une notion qui est la réforme agraire assistée par le marché, donc ça veut tout dire, c'est-à-dire la manière, et c'est un, de mon point de vue, c'est sans doute par là qu'ont commencé les accaparements de terres. Enfin, on y reviendra si vous voulez dans le débat. Alors, rappelez aussi que les mouvements paysans, dans l'histoire des mouvements paysans, la lutte pour la terre a toujours été importante, et que tous les mouvements paysans ont toujours aussi cet aspect lutte pour la terre, et puis que dans les 20 dernières années, on a assisté à une renaissance des mouvements paysans, à une internationalisation des mouvements paysans. Donc, quelques dates, 1984, c'est l'apparition du mouvement des sans-terres au Brésil, je reviendrai sur ce qu'ils font. 1993, c'est l'apparition du mouvement Via Campesina, donc qui est un mouvement qui regroupe des paysans, petits paysans, paysans sans terre, peuples autochtones, femmes, etc. Donc vous avez un mouvement très, très important, c'est la première fois qui existe au nord comme au sud. Et puis en 1994, et Hélène va en parler, c'est la naissance, l'émergence du mouvement zapatiste au Mexique, qui est un mouvement paysan et indigène, et donc qui est aussi dans lequel la question de la terre est également tout à fait importante. Alors juste un chiffre aussi, on estime que dans le monde il y a 500 millions de paysans sans terre. Vous voyez, c'est quand même pas négligeable, et sans doute que ce chiffre est sous-estimé, vraisemblablement il y en a beaucoup plus. Mais voilà, ça donne quand même un ordre de grandeur, c'est un problème majeur la question de la terre, et c'est en train de devenir chaque fois un peu plus. Je vais essayer de vous montrer aussi à quel point ce n'est pas simplement un problème de paysans, c'est un problème social beaucoup plus important. Alors l'Andalousie, je vais commencer par l'Andalousie. Donc la question de la terre en Andalousie, elle est très très ancienne, puisque à la fin du XVe siècle, déjà à la fin du XVe siècle, c'est-à-dire au moment de la Reconquête, des terres avaient été données aux conquistadors pour les remercier, d'immenses propriétés ont été données, et donc il y a eu de fait la constitution d'un très très grand processus d'inégalité des terres. On estime qu'actuellement 6% des propriétaires possèdent 62% des terres. Vous voyez, le phénomène de concentration est majeur et il s'est surtout aggravé à la fin du 19e siècle lorsque on a privatisé des terres municipales, des communaux si je puis dire, et les terres de l'église. Ça a été privatisé et ça a permis d'agrandir des propriétés qui étaient déjà très grandes. Et c'est là qu'ont commencé à émerger les revendications pour la terre. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en Andalousie, il y a eu une très forte influence anarchiste. Et dès 1870, on a créé la Fédération régionale espagnole de l'AIT. Donc, vous voyez, en lien avec nos journées, il y a eu une très forte emprise du mouvement anarchiste en Andalousie. Et un sociologue spécialiste de l'Andalousie, qui est Eduardo Sevilla Guzmán, il parle d'anarchisme agraire. Et ça doit être une des régions où cette notion-là est restée très importante, parce que ça a voulu dire que les luttes qu'ont menées les paysans sans terre pour la terre avaient immédiatement une dimension politique et bien sûr une dimension symbolique à cause de cette question identitaire très très importante. Alors, les formes de lutte qui ont été mises en place dès le départ étaient des formes de lutte très autonomes, très, très structurées, très autonomes, et qui se répandaient sur la totalité du territoire andalou. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais simplement rappeler les luttes récentes. Donc elles ont commencé à se développer après la mort de Franco, en fait, c'est-à-dire à l'arrivée des partis socialistes au pouvoir en Espagne. Et c'était très important parce qu'il y a eu une crise un petit peu semblable à celle-ci, c'est-à-dire que jusqu'à présent, si vous voulez, la question des sans-terres était réglée par l'immigration, en fait. C'est-à-dire les paysans andalous qui se retrouvaient dans les villages désœuvrés sans travail, soit ils allaient émigrer en France en particulier, ils allaient faire les vendanges, ils allaient faire différentes récoltes, soit ils allaient émigrer dans d'autres secteurs comme le bâtiment. L'Espagne déjà était dans le boom bâtiment, et donc voilà, et c'est que ça réglait entre guillemets la question des paysans sans terre. Et puis quand il y a eu une crise à la fin des années 70, eh bien ils en sont retrouvés sans travail, ils se sont retrouvés dans les villages, ils voyaient ces terres dont la plupart étaient désœuvrées, et dont en plus la politique agricole commune, parce qu'à l'époque ça y était déjà, la politique agricole commune disait bah, de toute façon il y a de surproduction, il ne faut pas trop utiliser les terres, etc. Donc cette espèce de situation a créé un paroxysme et a créé une mobilisation, et il y avait 300 000 paysans sans terre quand même. Résultat de ces luttes, le gouvernement socialiste n'a pas cédé, mais par contre, il a redonné des terres, acheté des terres, très mauvaise qualité, souvent marginales, pas toujours. Et à partir de là, ces paysans sans terre se sont organisés, mais de manière assez différente. Vous avez pu avoir un courant, bon, je citais un nom d'une coopérative comme la coopérative La Vellée, qui a été vers une agriculture de type paysanne, des circuits courts, d'agriculture biologique, essayer de trouver des formes collectives d'organisation, en particulier avec tous les paysans autour. Et puis vous avez une autre expérience qui est très connue en France, qui est Marina Leda, qui elle est restée sur une agriculture industrialisée, conventionnelle et plus, disons, productiviste. Voilà. Je voudrais rappeler aussi que le seul syndicat qui existe en Europe de travailleurs sans terre, c'est le SOC, qui maintenant est devenu SAT, et qui est aussi dans Via Campesina, qui a donc organisé ces luttes. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que le gouvernement a donné des indemnités qui ressemblent un peu à celles qu'on connaît chez nous pour les intermittents du spectacle. C'est-à-dire que quand les ouvriers travaillaient dans les différentes propriétés, on leur donnait des indemnités pendant les mois où ils ne travaillaient pas, avec des systèmes de dessous de table que vous pouvez imaginer, et donc ça a arrêté un peu les luttes. Et du coup, le SOC s'est plutôt réorienté vers à s'occuper de la question des migrants. Les liens sont absolument évidents entre les migrants chez nous, c'est les sans-terre ailleurs. Hein. Bon, voilà, en gros, c'est la même chose. Mais l'Espagne, qui était un pays de migration, est devenue un pays d'immigration. Et il y a eu des problèmes très très graves qui se sont passés, qui se passent toujours dans la région d'Almélie ou dans la région de Huelva avec les migrants. Et donc le SOC s'est réorienté vers l'immigration et vers la défense des travailleurs migrants. Et puis dernièrement, avec la crise en Espagne, il y a eu des réoccupations de terres, en particulier une importante dans la région de Cordoue qui s'appelle Somonte, dans laquelle, et de nouveau, le SOC s'est retrouvé aussi à organiser des luttes pour réoccuper des terres et réinstaller des gens. Donc, voilà pour l'Andalousie. Je vais passer donc aux sans-terres du Brésil. Alors, le mouvement des sans-terres du Brésil, il a été très connu parce qu'il y a eu pendant des années, des occupations de terres. Alors, savoir aussi que la propriété de la terre au Brésil, où il n'y a jamais vraiment eu de réforme agraire, elle est très très inégale, puisque vous avez moins de 3% des propriétaires qui possèdent 56% des terres agricoles. Donc, vous voyez une inégalité due à la colonisation, c'est-à-dire que quand les Portugais sont partis, eh bien vous avez des grands propriétaires qui se sont glissés, si je puis dire, dans les propriétés qui avaient été abandonnées, et l'inégalité est tout à fait majeure. Mais ce qui s'est passé en particulier à partir des années 90, c'est que le Brésil a opté pour un modèle agro-exportateur. Et du coup, les cultures vivrières ont baissé de manière considérable, de 25 à 30%. Le Brésil est devenu importateur d'aliments et exportateur de canne à sucre, de fruits tropicaux, etc. Ce qui fait que le Brésil est considéré comme un pays émergent, extrêmement offensif, le soja bien sûr, extrêmement offensif sur les marchés internationaux et sur les organisations internationales, alors que dans son sein, vous aviez une situation tout à fait dure, tense, inégalitaire, etc. Alors la manière dont ont procédé le mouvement des sans-terres du Brésil est assez intéressante parce que en fait, il y a une loi au Brésil qui reconnaît la fonction sociale de la terre. Autrement dit, une terre qui n'est pas travaillée doit être donnée aux gens qui la travaillent. Ça, c'est dans la constitution brésilienne, il y a cet élément-là. Mais comme les occupations de terres se multipliaient, le gouvernement a décidé que dès qu'une terre est occupée, elle ne serait jamais distribuée, celle-là. Alors, du coup, le mouvement des sans-terres, ils ont été à côté. Donc, quand ils visaient une terre, ils se mettaient à côté, ils faisaient des campements en plastique, dans lesquels il y avait à peu près une douzaine de familles, qui, pendant ça a duré parfois des années, hein. Donc ces campements se sont auto-organisés, ils avaient leur propre système, leur propre école, leur propre système, leur propre médecine, leur propre, quand ils pouvaient un petit bout, ils cultivaient, ou sinon ils cuisinaient ensemble, ils se sont organisés, et ça a créé des formes collectives d'organisation et qui après ont perduré, parce que quand ils ont eu les terres, eh bien ils ont pu, ils avaient déjà cette culture collective qu'ils avaient construite, et ils ont pu reproduire, si je puis dire, poursuivre dans ce qu'ils appellent les agro-villages. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, parce que c'est important, c'est que ces luttes, et en particulier la lutte du Brésil, a compté beaucoup de morts. Il faut rappeler, on parle pas suffisamment, de mon point de vue, des assassinats de paysans dans le monde. Et là, en l'occurrence, les chiffres sont tout à fait saisissants, puisque entre 1986 et 2006, vous avez eu près de 2000 pays, travailleurs agricoles assassinés, et en tout 17 procès. Vous voyez, donc il n'y a pas de justice non plus pour ces gens-là. Et en particulier, il y a un assassinat qui a particulièrement marqué, qui est le 17 avril 1996. C'était une marche de femmes et d'enfants tout à fait légale. Et il y a eu des paramilitaires qui ont tiré sur eux et qui ont tué 20 personnes. Et le procès n'a jamais eu lieu d'ailleurs. Mais c'est, disons, la date à laquelle Via Campesina fête les luttes paysannes dans le monde, tous les 17 avril. Et c'est un hommage à ces gens qui ont été assassinés. Alors, le mouvement des Sans-Terre vient de fêter ses 30 ans, là, cette année, et donc ils ont fait un bilan. Et le bilan est quand même très impressionnant, puisque quand vous regardez, il y a actuellement 350 000 familles. Quand je dis famille, ça fait beaucoup plus de monde, bien sûr, que 4 personnes. Il faut compter une famille au Brésil, 7-8 personnes facilement. Donc 350 000 familles qui vivent dans les terres qui ont été conquises. C'est réparti sur 1200 municipalités. Et ça regroupe 8 millions d'hectares. Donc vous voyez, ça crée véritablement un territoire au sein du territoire brésilien qui a sa propre forme d'organisation. Il y a des écoles en particulier de formation, j'en reviendrai sur la question de l'agroécologie, vous avez des écoles propres dans lesquelles les connaissances et les savoir-faire paysans sont transmis de façon à être aussi autonomes au niveau des savoirs et des savoir-faire, ce qui est quand même très important. Et il y a actuellement quand même, parce que le gouvernement Lula et surtout le nouveau gouvernement restent tout à fait sourds à toute redistribution des terres, vous avez actuellement 700 campements, de ces campements dont j'ai parlé, dans 24 États du Brésil et 90 000 familles qui attendent d'avoir des terres. Donc vous voyez, le phénomène continue, est toujours présent et toujours vivant. Alors oui, savoir aussi qu'une des choses intéressantes, c'est que le mouvement des Sans-Terre du Brésil a tout de suite compris qu'ils avaient besoin d'alliances. Et ils ont notamment organisé des marches très importantes, dont une qui a fait 1000 km de marche, dans laquelle d'autres gens, des non-paysans, se sont associés pour soutenir la lutte des mouvements des Sans-Terre. Et ça a beaucoup compté. Donc c'est très important. Alors juste dire que le mouvement des Sans-Terre a lancé une nouvelle notion qui est la notion de réforme agraire populaire, ce qu'ils viennent de lancer à l'occasion de leur 30e anniversaire. Alors, en fait, en quoi ça consiste? Ça consiste premièrement à donner la priorité aux cultures vivrières sur les cultures d'exportation, c'est-à-dire que désormais, ils feront sur leur territoire des cultures vivrières. Ensuite, de le faire selon une démarche agroécologique. C'est autrement dit, sans intrants chimiques, en préservant la biodiversité, etc. Ensuite, développer dans les campagnes des industries de transformation pour donner du travail, en particulier aux jeunes, et puis développer des activités culturelles, récréatives, éducationnelles, etc. Bon, simplement vous dire, parce que bon, j'ai parlé de deux cas, mais il y en a beaucoup. Il y a des luttes en Inde, il y a des luttes en Afrique du Sud, il y a des luttes dans tous les pays du monde sur les questions de la terre. Et puis je voulais juste revenir, terminer sur l'enjeu important de la terre, parce qu'en fait on assiste à une véritable destruction des terres. Et ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi il y a une destruction? Il y a une destruction par les modes de production qui sont mis en place. On estime, si vous voulez, que au XXe siècle, les deux tiers de la surface agricole a été en partie contaminée ou abîmée, ou en tout cas difficile à travailler. Par la destination des terres agricoles, parce qu'on fait de moins en moins, on a tendance à faire toutes sortes de choses sur les terres, c'est-à-dire des agrocarburants, de la bioénergie, des énergies renouvelables, on développe les villes, on fait des transports, on fait des autoroutes. La Chine a perd environ 500 000 hectares par an. Donc vous voyez, par l'industrialisation, il y a des destructions de sol, par l'accaparement de terres, bon, ben, on y reviendra parce qu'il ne faut pas développer. Et puis juste rappeler qu'il existe aussi une propriété de la terre sans titre à laquelle on ne pense pas beaucoup, Par exemple, l'Europe, par son mode de production agricole, consomme 7 fois sa superficie dans les pays du tiers-monde. Et là, il n'y a pas de titre de propriété, ça n'apparaît nulle part, et pourtant, c'est une réalité. Voilà, je termine là-dessus, puis on débattra.
C'est au tour de Benji de présenter le réseau Reclaim the Fields. Il sera suivi par Mika qui causera des occupations de terres sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, moi je vais parler un peu, quand même un peu d'autre chose. Je suis censé vous présenter le réseau Reclaim the Fields. Je voulais aussi commencer par une petite discrétion, mais Sylvia m'a un peu volé mon sujet. Mais vu qu'aujourd'hui on fête les 150 ans de la première internationale de l'AIT, qu'à l'époque, ça a été un élément de diffusion des idées aussi anarchistes dans le mouvement ouvrier. Je voulais rappeler qu'il y avait une histoire paysanne de l'anarchie ou une histoire anarchiste de la paysannerie. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus, mais où on en est maintenant, d'un côté, la concentration des terres aux mains d'une plus grande minorité d'agriculteurs et d'agro-entrepreneurs. D'un autre côté, une disparition quasi programmée de la paysannerie en tant que classe dans ce qu'elle a pu être dans son existence au cours des siècles. T'as pas dit, on est encore 600 000 en France, mais il y en a plus de la moitié qui ont plus de 55 ans, donc ça pose une question très très concrète pour les 5 prochaines années. Et à la fois, on sait qu'il n'y a pas le potentiel de renouvellement dans la société, dans les campagnes, et à la fois, il y a une contradiction, c'est qu'il y a tout un tas de personnes qui aimeraient bien se lancer, qui aimeraient bien démarrer un peu des productions, trouver un lopin de terre, faire un petit élevage, tout ça. Et ces personnes qui ont envie de vivre un peu d'écologie pratique, de faire des collectifs ruraux. Je donne un peu des exemples, des profils. Des gens aussi dans les villes qui ont envie de trouver une parcelle et de faire du jardin collectivement ou lancer un peu des productions. Toutes ces personnes font face un peu aux mêmes difficultés d'accès à la terre. Pourquoi ? Parce qu'elle est concentrée par notamment le monde agricole, mais aussi par les plans d'urbanisme qui font que les paysans ne veulent pas céder leur terrain parce qu'ils sont susceptibles de passer à la construction, et tout ça, et tout ça. Donc c'est dans ce contexte-là qu'est né le mouvement Reclaim the Fields, je veux dire RTF pour simplifier, et petite lecture rapide de notre autodéfinition. Reclaim the Fields est une constellation de personnes et de projets collectifs qui veulent retrouver le contrôle de la production alimentaire. Nous sommes déterminés à créer des alternatives au capitalisme au travers d'initiatives et de modes de production coopératifs, collectifs, autonomes, répondant à nos besoins à petite échelle. Nous mettons nos idées en pratique et nous associons les actions locales aux luttes politiques globales. Voilà. Alors, vu que le thème un peu de la séance, c'est de parler de l'appropriation, on s'est aussi assez senti concerné par cette problématique. Il y a plusieurs grilles d'entrée. D'abord, ben, se réapproprier nos propres moyens d'organisation. Je pense qu'on a une génération qui assume pas forcément l'héritage du militantisme de la génération d'avant. Il y a eu des transmissions pour les plus anciens et anciennes d'entre nous, mais les plus jeunes, il y a eu une rupture, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Et c'est vrai qu'on s'organise de façon différente. Et c'est un des éléments qui est assez important pour nous. Il y a aussi sûrement un peu l'évolution des pratiques d'organisation qui font qu'on préfère s'organiser en assemblée. En fait, bon, Reclaim the Field, c'est une sorte d'espace pour laisser à toutes ces personnes qui ont envie un peu de s'installer ou qui sont déjà un peu en cours d'installation, qui vont peut-être vers une installation un peu professionnelle pour certains ou certaines. Mais c'est pas qu'un forum de rencontre, c'est aussi un espace d'élaboration de stratégies d'action, et ça se passe dans ces assemblées. Voilà. Ben, par exemple, en termes de pratique, on est pas mal sur des fonctionnements avec du prix libre, où chacun qui vient amène un peu d'autoproduction quand les personnes sont lancées dans les productions, que ça puisse être des légumes ou tout plein d'autres choses. Mais des fois, on fait de la récup des poubelles pour permettre de faire des bouffes vraiment pas chères pour être 50 ou 100 personnes. Des fois, on mange bio parce que c'est aussi les moyens dont on dispose de taper dans nos moyens de commandes groupées de bouffe bio. C'est pour expliquer un peu tout ça. Un autre type de réappropriation, c'est... pour nous, c'est important de se réapproprier des questions politiques. Bon, là, je voulais donner un exemple qui est assez important. C'est on porte beaucoup d'attention à la question des rôles genrés dans nos assemblées, dans nos fonctionnements. Du coup, il y a régulièrement des débats, des discussions sur comment on vient un peu casser aussi les figures du militantisme. Et puis ne pas se satisfaire du fait que voilà, soit quand même généralement souvent des hommes qui prennent la parole et qui savent ce qu'ils ont à dire. Et je pense que c'est pour vous montrer un peu que nous, on ne voit pas une évolution des pratiques sans s'interroger sur ces questions-là. Quoi. Pour continuer sur les réappropriations, il y a la partie un peu moyen de propagande, des transmissions de savoir, et là on a mis en place un certain nombre de choses. Bon, on fonctionne pas mal avec du système brochure, prix libre, gratuit, tout ça, parce que ben, c'est pas évident tout le temps pour les gens de s'informer ou de s'instruire avec des bouquins à 20€ et tout ça. Et du coup, c'est pour vous dire, alors, Reclaim the Field au niveau européen, c'est un peu des groupes un peu dans tous les pays. Pas dans tous les pays, mais voilà. On a publié sur le Met principalement 8 bulletins qui ont été traduits en 5 ou 6 langues en 4 ans. Donc tout ça, c'est aussi du travail militant, bénévole, volontaire, de gens qui se disent bah, allez, on traduit ce que les autres écrivent et nous racontent de ce qui se passe en Suède, en Angleterre, en Espagne, en Autriche. Bon, ça c'est des bulletins que je vous invite à consulter sur un blog qui est assez mal fait parce qu'il est aussi autoproduit et du coup bah, il y a toujours un peu des lacunes dans l'autogestion, il faut le reconnaître. Mais le blog c'est www.reclaimthefields.org, donc c'est dans toutes les langues aussi. Mais là vous pouvez télécharger les bulletins. Sinon, on a depuis 2 ans là, c'est constitué un collectif d'interprétation. Parce que bon, on mène des réunions au niveau européen et la difficulté en Europe par rapport à s'organiser comme en Amérique latine où tout le monde parle à peu près espagnol et peut-être portugais, c'est qu'en Europe, ben, on parle plein de langues différentes et que c'est quand même compliqué de faire les assemblées à 25 langues sans avoir un peu sans disposer d'un moyen d'interprétation. Et du coup, au début, on a été un peu poussé par un groupe qui s'appelait Coati, c'est une coopérative d'interprétation qui s'est construite avec la Campesina. Mais Coati a souhaité transmettre ses savoirs et ses techniques. Et du coup, on a maintenant un propre collectif qui a acheté du matériel. Ça passe par des systèmes d'ondes FM, des transmetteurs radio en fait. Et du coup, on a une capacité à mener des assemblées ou des campements en multilangue et se comprendre plus facilement. Voilà. Autre moyen qu'on essaye de mettre en place un peu laborieusement, mais là ça commence à sortir, c'est une sorte de réseau de lieux de ressources, de fermes en gros, de lieux collectifs qui ont des activités paysannes, mais aussi des fermes de camarades de la conf par exemple, pour les personnes qui auraient envie d'acquérir des techniques, des savoir-faire ou aussi du fond de pensée politique sur les luttes paysannes par exemple, puissent trouver des ressources dans les lieux et voilà, se former en dehors un peu des cadres institutionnels de formation professionnelle qui de fait ne sont pas adaptés à ce qu'on veut faire dans les productions qu'on a envie de faire et dans la vie qu'on a envie de mener. C'est pas financé, il n'y a rien qui est financé. Bon, ouais, c'est prix libre, quoi. Enfin, c'est sort les thunes de ta poche. Donc c'est un réseau qui s'appelle Fourche et Champs Libres, qui est un peu une émanation de Reclaim the Fields, mais avec des gens un peu qui s'autonomisent dans ce truc-là, un peu comme le collectif Bla d'interprétation. Voilà. Dernier point sur lequel je voulais un peu faire de la présentation, c'est la réappropriation des moyens de production. Et notamment, ben, quand on ne trouve pas de terre à louer ou à acheter pour ceux qui ont les moyens, et ben, l'idée c'est peut-être d'aller les squatter, puisqu'il y a des bons exemples dans le sud de l'Europe. Tu as parlé de l'Andalousie, mais c'est vrai que c'est intéressant de raconter aussi ce qui se passe dans le sud des Pyrénées, le Piémont sud des Pyrénées, où il y a eu beaucoup de villages et de hameaux qui ont été abandonnés à cause de 40 ans de politique fasciste et franquiste. Et il y a un mouvement depuis 15 ans, 20 ans, un peu plus pour certains, de groupes de gens qui décident de réoccuper ces villages abandonnés, décident de vivre là en autonomie, en débrouille. Et c'est quand même pas rien, hein. c'est plusieurs dizaines de lieux, souvent un peu punk, agro-punk ou hippie-punk, agro-hippie. Mais n'empêche que c'est des expériences qui sont là et qui durent dans le temps, qui sont intéressantes. Voilà, on est un peu en lien avec eux. Ouais, occuper des terres, c'est difficile de pas aller direct sur ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, d'autant qu'on y a joué un rôle à un moment de, on dirait, de catalyseur en fait. Bon, on veut surtout pas s'approprier ce qui s'est passé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais voilà, on a été là à des moments pour essayer de faciliter des choses qu'on puisse faire et qu'ont été successful. Une première manif qui a été organisée pour l'occupation du sabot, qui a réuni à peu près un millier de personnes. Manif, fourche et machette en main. Du coup, c'est pour saluer le retour du mouvement de lutte armée en Europe. On s'en est passé un peu de compte, les journalistes ou les banquiers, mais c'était quand même pas mal de faire une manif un peu avec des manches de pioche et des faux. Ça n'arrive pas si souvent. Et c'était chouette puisqu'on a défriché tout un hectare qui a permis à un collectif de s'installer pendant 2 ans et cultiver des légumes pour nourrir la lutte sur la ZAD. Ensuite, on avait préparé depuis ce temps-là la manif de Réoccup parce qu'on se disait bien qu'à un jour ou l'autre, quand même l'État allait essayer de virer tout le monde. Et on se disait qu'il faudrait être prêt. Alors on a été prêt avec une affiche et un tract qui a été diffusé dans beaucoup d'endroits puisqu'il y a eu 2 ans de latence. Et voilà, je vais terminer un peu là-dessus. Il y a eu 40 000 personnes qui sont déplacées pour cette manif. Peut-être qu'il y en avait qui étaient là parmi vous. C'était vraiment au-delà de nos espérances. On pensait être 5 000 ou 8 000. Ça veut dire quoi? Les conclusions, c'est que finalement, il y a peut-être une attente de aussi manifester ou de s'impliquer un peu autrement que par des manifs plan-plan, cortège et tout ça. Ce qu'il faut continuer à faire quand même. Hein. Pour dire que si on arrive comme ça avec vraiment peu de moyens, une affiche, un tract des moyens humains à organiser des moments comme ça, ben, on devrait se dire qu'on pourrait aussi aller bloquer Bure ou bloquer tous les trucs qui nous font chier dans le reste de la vie. Je sais pas trop comment on peut en tirer une conclusion, mais je vais laisser Mika vous parler de, ben, un peu plus de ce qui se passe en concret sur la ZAD au niveau paysan, squatteur et tout ça.
Et donc je vais vous parler de la ZAD du point de vue de l'occupation agricole. La première occupation à vocation agricole, parce qu'avant il y avait des occupations de maison. Et là, le sabot, c'était la première occupation de terre, donc en mai 2011. Le sabot, c'est le nom du lieu-dit, de la ferme qui a été créée. Concrètement, c'est une parcelle d'un hectare qui était en friche, qui a été défrichée par 1000 personnes. Donc, c'était défriché par 1000 personnes, c'est aussi poser un acte collectif et illégal, quoi. C'était la plus grosse manif en 2011 là, qui a eu lieu sur la ZAD. L'objectif, c'était de montrer qu'on peut occuper les terres, qu'on peut aussi occuper les terres agricoles, y produire dans un cadre d'une lutte. Le fait c'est de faire cette manif collectivement, d'ouvrir un lieu collectivement à 1000 personnes, ça permet à plein de monde, aux gens qui sont là, enfin, qui sont là à la manif, de s'approprier un peu l'endroit. Quoi. Même s'ils n'occupent pas au quotidien, mais ils ont quelque part, ils portent un peu l'occupation. Donc l'occupation du sabot, ça a duré 2 ans. 2 ans où sont tissés des liens indéchirables et qui a permis au moment des expulsions, donc en octobre 2012, que énormément de monde et de pays et notamment de paysans du coin, mais de paysans aussi d'ailleurs, des paysans donc installés officiellement, se mobilisent et s'engagent vraiment à fond dans la lutte contre le projet d'aéroport. Notamment en mettant leur outil de production, c'est-à-dire les tracteurs, en les mettant en avant, quoi, en venant sur le terrain avec les tracteurs, en faisant des barricades avec les tracteurs. Donc il y a eu une défense, disons, intense pendant 2 mois, un peu plus de 2 mois sur la zone. Bien sûr, la plupart des beaucoup de gens étaient expulsés. Le sabot était expulsé et rasé au printemps suivant, donc le printemps 2013, l'année dernière. Voyant qu'on était sortis victorieux des expulsions, qu'ils n'avaient pas réussi à nous virer, voyant l'énorme soutien de la population et des paysans, on a décidé de continuer l'occupation agricole et de visibiliser l'occupation agricole, de relancer des nouvelles fermes, des nouvelles occupations. À partir de 2013, il y avait une petite dizaine de projets qui se sont installés, donc du maraîchage diversifié, de l'élevage laitier, une production de pain, de blé pour faire la farine, de choses diverses mais à très petite échelle, dont la plupart avaient pour objectif de produire pour nourrir la lutte, donc pour nourrir les gens qui étaient sur place, mais aussi les alentours, donc pour créer du lien avec les autochtones, si je puis dire, là-bas. Et aussi pour s'inviter à d'autres luttes ailleurs via notre production. Par exemple, d'amener des légumes quand il y a des cantines sur des camps, comme par exemple, je sais pas, des camps d'altermondialistes en général, comme il y a eu à Valogne, ou des camps contre le G8 ou des choses comme ça. Il y a des légumes qui ont servi à aussi nourrir des squats de demandeurs d'asile ou de nourrir des week-ends de réunions de militants. Essayer de sortir un peu de produire dans un endroit en lutte pour d'autres luttes. Donc au printemps 2013, ce qui s'est passé d'assez qu'on peut remarquer, quoi, c'est l'énorme mobilisation des paysans. Ils se sont rassemblés au sein d'un collectif qui s'appelle Le Copain. Donc c'est un collectif d'organisation professionnelle agricole indignée par le projet. Et ça rassemble la CONF 44, le groupement des agriculteurs bio et diverses associations comme ça. Et les paysans sont devenus squatteurs puisqu'ils ont occupé, ils ont défendu une ferme qui allait être rasée. Ils l'ont occupée avec des tracteurs en montant des barricades autour pour éviter qu'elle soit détruite justement. Et ont réinstallé des gens qui ont remis un peu l'outil de production en marche de la ferme. Donc avant il y avait des squatteurs qui s'étaient mis à la paysannerie et en 2013 il y a des paysans qui sont mis à squatter. Quoi. Maintenant je ne sais même plus si je suis un squatteur ou un paysan. D'ailleurs, c'est une des choses qui fait un peu la force du mouvement là-bas, c'est que de plus en plus, enfin de moins en moins plutôt, on peut catégoriser les gens. C'est, la lutte là-bas, c'est une multitude de composantes qui s'entremêlent. On le disait, entre les paysans et les squatteurs, les paysans deviennent des squatteurs et inversement. Et maintenant, on peut difficilement séparer les deux. Il n'y a plus une composante radicale, disons, un art et des paysans institutionnels. Ça brasse et ça ouvre énormément de perspectives. Des perspectives notamment pour la force matérielle, puisque le soutien de paysans installés du département, de la région, même d'au-delà, ont permis d'amener des outils, des tracteurs, du matériel, des connaissances, de la main-d'œuvre pour pouvoir cultiver un peu plus et occuper plus de terres, puisque à partir de l'année dernière, il y a plus de terres disponibles sur la zone. Donc, pour montrer qu'on peut faire autre chose que du béton sur cette terre-là, il nous fallait les cultiver. Donc, le projet concerne 1650 hectares. Il y a encore des paysans disons, installés officiellement. Qui ont résisté à Vinci, qui n'ont pas vendu, qui sont sur place, une dizaine, qui sont maintenant squatteurs puisqu'ils ont été expropriés. Et il y a peut-être 300, 400 hectares qui sont attribués à personne, donc qui sont libres pour des projets qui viennent d'ailleurs, quoi. Notamment ceux issus du mouvement d'occupation, quoi. Il y a, comme je disais tout à l'heure, une dizaine de projets, donc ils ne cultivent pas les 300 hectares, mais bon, on en a là. Comme on dit, l'ambition. Et pour la suite, là, le projet d'aéroport, il est bon, il a vraiment du pont dans l'aile. On réfléchit d'ores et déjà au futur, donc au futur des terres agricoles. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs centaines d'hectares qui sont libres maintenant, mais qui appartiennent à Vinci. Mais qu'une fois que le projet sera abandonné, les agriculteurs. Des alentours productivistes qui ont vendu il y a quelques années, qui sont énormément agrandis, qui ont touché des indemnités, vont vouloir récupérer pour un modèle agricole qui ne convient pas. Donc ce qu'on réfléchit maintenant, c'est la création d'une réserve foncière sur les terres du projet, une réserve foncière accompagnée d'une gestion collective. Que ce ne soit pas Vinci ni la Chambre d'agriculture qui attribue des terres à un tel et un tel, mais que les gens qui ont lutté, les paysans qui ont résisté, qui n'ont pas vendu, gèrent collectivement les terres et installent des jeunes.
Sur Radio Canut dans l'émission Les Paysans et les Paysannes dans la lutte des classes. Pour terminer, voici l'intervention d'Hélène Roux sur les luttes paysannes au Chiapas et au Honduras.
Au début 2014, au Chiapas, donc les Apatistes ont fêté 20 ans de soulèvement et 10 ans de construction de ce qu'ils ont appelé la construction de l'autonomie. Il faut rappeler que le soulèvement zapatiste, de façon très symptomatique et symbolique, s'est produit le même jour où le Mexique entrait dans l'ALENA, hein, dans le traité de libre-échange nord-américain, donc avec les États-Unis et le Canada. J'aimerais revenir un petit peu sur la question des luttes pour l'accès à la terre. Dans le soulèvement zapatiste, qui est un aspect fondamental, mais qui est un petit peu passé au second plan dans un certain nombre de narratifs sur le mouvement zapatiste. Cette récupération et occupation des terres, elle se produit à la fin de 1994, où il y a une récupération, une occupation massive qui est menée non seulement par les zapatistes, mais aussi par d'autres organisations qui n'étaient pas forcément zapatistes, mais qui, profitant de l'opportunité, occupent des terres. Et pourquoi ils occupent des terres? C'est parce que, et ça aussi c'est une des raisons principales, importantes du soulèvement zapatiste, c'est que en préparation de l'entrée dans l'ALENA, le gouvernement mexicain a réformé l'article 17 de la Constitution mexicaine, qui datait de la Révolution mexicaine, et par là même mis fin au processus de distribution des terres. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on met fin à un processus de distribution des terres qu'il n'y a pas de demande de terres, donc on a bien vu. Et cette occupation massive par les zapatistes, mais aussi par les paysans du Chiapas, montre bien que la demande de terres, évidemment, restait constante. Et donc le gouvernement ne s'est pas trompé et a mené une stratégie de division, et elle est survenue, celle-ci, particulièrement après 2000, où les conflits agraires se sont multipliés parce que le gouvernement a donc profité a essayé de favoriser un certain nombre d'organisations non zapatistes en leur faisant miroiter la régularisation des terres et pour les mettre en conflit avec les zapatistes. La question de la répartition et de la gestion est évidemment un support des relations de pouvoir et un lieu de rapport de force, d'où l'aspect très politique des luttes sacrées. On y voit souvent soit exclusivement un côté économique, ce qui amène souvent à penser que finalement les luttes paysannes sont corporatistes, on a même pu dire qu'elles sont non révolutionnaires, voire carrément réactionnaires. Donc, on y voit seulement le côté symbolique, le côté défense de la terre-mère, de la mère-nature, etc. Ce qui mène un peu à essentialiser les conflits et à les vider de leur dimension de classe. Il me semble qu'il faut considérer les deux aspects, en tout cas, de ces luttes pour la terre et ces deux aspects dans leur dimension politique. Et donc, c'est ce qui s'est produit au Chiapas, donc où les zapatistes ont dû faire front sur les deux tableaux. D'une part, la division des mouvements paysans par l'attribution de la part du gouvernement, par l'attribution de crédit à la production, par la régularisation de terres. Et d'autre part, il y a eu des politiques d'expulsion et une construction assez artificielle de la figure de l'Indien vert qui allait être le défenseur et le gardien de gigantesques réserves, aires naturelles protégées. et qui allait donc pouvoir résister et s'opposer à la déprédation de la nature, évidemment par les paysans. Mais donc on a un peu séparé la figure de l'Indien et la figure du paysan en cherchant à les opposer. Malheureusement, les apatistes sont non seulement des Indiens, mais aussi des paysans. Donc ils ont répondu d'abord de façon politique par l'instauration de municipes autonomes. Donc ces municipes autonomes ont été créés justement en 95 à la suite de l'occupation massive de terres. Donc ça a été vraiment, cette occupation massive de terres a été le support du début d'une construction d'autogouvernement. Et deuxièmement, ils ont mis en place une administration politique du territoire avec des autorités. Il y a eu aussi des prises de décision assez fortes. Par exemple, un certain nombre de communautés qui n'étaient pas forcément zapatistes ni en territoire contrôlé par les zapatistes ont été très concrètement menacées d'expulsion en raison de l'extension et de l'instauration d'aires naturelles protégées. Les zapatistes les ont en quelque sorte pris sous leur aile. Un certain nombre de communautés ont été réinstallées, donc on leur a fait de la place dans les territoires zapatistes. Et dans d'autres cas, des communautés qui n'étaient pas forcément zapatistes ont reçu le soutien explicite des zapatistes, ce qui a permis, dans certains cas, de retarder et en tout cas de limiter les ardeurs de ceux qui voulaient les expulser. Et c'est dans ce sens qu'en juin 2005, un document sort qui s'appelle la 6e déclaration de la Selva Lacandona, qui appelle à se réapproprier les moyens de production pour construire l'autonomie. Il faut voir là, dans cette question de la réappropriation des moyens de production, un aspect fondamental. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est la réappropriation de la terre et du territoire. Et c'est sur cette base des terres récupérées et de la capacité à les défendre et à la gérer que repose en grande partie la construction de l'autonomie. Donc, où se pose la question de comment travailler ou gérer les terres. Donc, il y a une partie de travail collectif, mais aussi la préservation de parcelles individuelles. Ce qui préexistait d'ailleurs avant au Mexique, une grande partie des terres sont, depuis la Révolution mexicaine, sont gérés sous forme de dotations agraires, qu'on appelle en espagnol les ejidos, c'est une collectivité, la terre est c'est une dotation à une collectivité, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir une partie collective, mais que chacun ait aussi une parcelle familiale. Ces différentes façons de gérer cohabitent et coexistent. Dans les terres qui sont exploitées collectivement, une fonction productive et une fonction sociale, donc de service public. Par exemple, dans une communauté dans le Nord, le travail collectif sert à financer les projets éducatifs et de santé, notamment par exemple le centre de santé, donc les promoteurs de santé financent leur salaire en gros et le fonctionnement du centre de santé et surtout le temps qu'ils ne passent pas sur leur propre parcelle, ils le financent par exemple par un projet d'élevage. Les ressources que leur rapporte ce projet d'élevage, ça peut leur permettre de faire fonctionner le centre de santé. Et comme ça, il y a un grand nombre de projets et d'inventions et d'initiatives qui sont prises dans les communautés zapatistes en ce qui concerne la gestion de la terre. ça représente des milliers de communautés. Au niveau de la surface, c'est difficile à dire parce que ça représente sur l'échelle d'un État, donc le Mexique étant un État, un pays, enfin, une fédération. Donc dans tout l'État du Chiapas, il y a des municipes autonomes et des communautés zapatistes qui sont donc, il y a plusieurs niveaux, donc il y a les communautés qui font partie d'un municipe, et ce municipe fait lui-même partie d'une région autonome, donc il y en a cinq. Donc les gouvernements et les autorités sont élus par rotation de charges, et les charges d'autorité ne sont pas rémunérées, d'où justement la nécessité de trouver des alternatives et de pouvoir gérer collectivement, individuellement et collectivement la question des terres. Par exemple, une personne qui aura été choisie comme autorité et qui devra donc rendre service à la communauté pendant un temps donné, sa communauté va prendre en charge, par exemple, le travail de sa parcelle. Et c'est aussi la mise en place donc, et la construction d'un système d'échange entre régions, entre ces régions, ce qui implique l'évaluation des besoins et ce qui implique une planification de ce qui se produit dans chaque région. Et c'est là pour ça qu'il est important d'analyser puis d'écouter le message politique derrière les prosaïques, entre guillemets, revendications d'accès à la terre. Et parce qu'il s'agit là d'une possibilité réelle d'alternative au capitalisme qui ne se pose pas du tout de la même manière pour le secteur industriel urbain. Et donc il me semble que les luttes les constructions politiques qui se font à travers la revendication de l'accès à la terre sont extrêmement importantes. Ça pose aussi la question des formes d'accès à la terre. Il se trouve que dans le cas du Chiapas, la lutte pour la terre, elle a concerné principalement des petits paysans avec un système et des petits paysans indiens majoritairement. En Amérique centrale, donc un petit peu plus bas, elle concerne principalement des ouvriers agricoles, ou plus exactement des ouvriers agricoles et des paysans, ce qu'on peut appeler des paysans semi-prolétarisés, c'est-à-dire qui ont une petite parcelle mais qui ne peuvent pas en vivre totalement et sont donc obligés de s'employer une partie de l'année comme ouvriers agricoles. Et donc cette frontière entre paysannerie, petite paysannerie et ouvriers agricoles est très mince, en tout cas dans cette partie du monde. Et c'est notamment le cas du Honduras dont je voudrais parler maintenant. En 1954, au Honduras a lieu une très grande grève. Le Honduras, c'est le pays, c'est la république bananière par excellence, et donc un lieu d'implantation très fort à l'époque de la United Fruit Company, dont on peut rappeler aussi qu'elle a été à l'origine en 54 aussi du coup d'État qui a renversé au Guatemala le président Arbenz, sous l'argument que justement ce gouvernement du Guatemala avait tenté une réforme agraire. Or, au Honduras, il se passe, se déclenche une grande grève dans les bananeraies et une grève qui est tellement importante qu'elle fait plier la United Fruit Company et qu'elle se propage dans tout le pays. Et on a donc au Honduras une corrélation de forces qui aurait pu à l'époque vraiment déboucher sur une situation révolutionnaire. Un monde rural extrêmement prolétarisé, mais en même temps à la fois paysan et prolétarisé, concentré et également très, très politisé. Malheureusement, cette situation a été extrêmement bien appréhendée par les gouvernements de l'époque et récupérée. Et le Honduras est un pays où il existe beaucoup de syndicats paysans, mais qui malheureusement ont été récupérés et utilisés aussi à des fins de contrôle. Un certain nombre de mesures ont été prises, notamment dans les années 50-60. On a encouragé les paysans à aller s'installer à l'est du pays pour diminuer la pression sur les grands latifundias, les grandes propriétés terriennes. Et donc c'était un moyen d'une part de diminuer cette pression pour l'accès à la terre et d'autre part c'était aussi un moyen de contrôler le mouvement paysan. À l'époque déjà, on avait encouragé les paysans à la culture de la palme, du palmier à huile. Ce qui est encore le cas actuellement. Dans les années 90, s'est produit au Honduras comme dans le reste de l'Amérique latine une libéralisation très, très forte et en particulier une libéralisation des terres. Ce qui fait que ces entreprises paysannes qui s'étaient installées et qui avaient, avec l'appui du gouvernement, ont été accaparés, récupérés par des grands propriétaires terriens. Et depuis cette époque, donc des conflits agraires extrêmement, extrêmement forts et extrêmement violents sont en cours. Il y a eu aussi des actions extrêmement, très, très politiques, symboliquement très, très fortes, comme en 2000 l'occupation d'un ancien camp d'entraînement militaire qui avait servi à l'armée des États-Unis pour entraîner toutes les forces contre-insurrectionnelles qui avaient servi dans la région, notamment au Salvador, au Nicaragua et au Guatemala voisin. Donc ce camp, cet ancien camp d'entraînement militaire a été réoccupé par des milliers de familles paysannes qui y sont toujours aujourd'hui. Depuis 2009, donc au Honduras en 2009, un coup d'État a eu lieu. Là aussi, les velléités d'engager une réforme agraire ont été pour beaucoup dans la décision de mener un coup d'État. Et donc, depuis 2009, plus de 150 paysans organisés ont été assassinés au Honduras. Voilà, je voudrais terminer par une phrase qui a été dite à l'occasion de l'hommage qui a été rendu à Galeano au Chiapas quand il a été après son assassinat. C'est-à-dire qu'il existe une relève aux luttes actuelles, d'abord évidemment générationnelle, en ce qui concerne les zapatistes, mais aussi une relève qui va de la classe moyenne illustrée à l'Indien paysan. Une relève idéologique qui va de l'avant-gardisme révolutionnaire au commandé en obéissant, qui est une des phrases importantes du mouvement zapatiste, de la prise du pouvoir du haut par le haut à la création du pouvoir depuis le bas, de la politique professionnelle à la politique quotidienne et des leaders au peuple, de la marginalisation des femmes à la participation des femmes et du mépris de l'autre à l'éloge de la différence.
Soyons tous, c'est la lutte.
Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant le fichier lié sur le blog de l'émission http://blogs.radiocanu.org/luttepaysanne/. À bientôt dans Les Paysans et les Paysannes dans la lutte des classes.